Salut Ton.
Saluton.
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 Saluton. Saluton.
Amis auditeurs, bonjour. Ou si vous préférez maintenant, saluton. Dans cette émission, nous allons tout d'abord vous proposer un dossier préparé par Ange sur La Espero, l'hymne des espérantistes. Puis nous commencerons une nouvelle leçon d'espéranto avec des élèves de Saint-Antoine d'Auberoche et de Bassillac. Écoutons Ange Matteo.
Dans cette petite rubrique, nous avons déjà évoqué plusieurs personnalités qui avaient un lien avec l'espéranto, comme Théophile Carte, espérantiste célèbre né en Périgord, ou bien Jules Verne, enthousiasmé par cette idée et qui avait même commencé à écrire un roman sur l'espéranto à la fin de sa vie. Nous revenons aujourd'hui sur Louis-Lazare Zamenhof, le créateur de l'espéranto, en 1887. Nous n'allons pas revenir sur sa vie, mais c'est un de ses poèmes, La Espero, que nous allons lire et écouter. Écoutez, car ce texte a été mis en musique par Félicien Menu de Ménil et est devenu en quelque sorte l'hymne, non pas d'un pays, mais de cette belle idée de langue internationale et de tous ceux qui y croient, quelle que soit leur nationalité. C'est en quelque sorte l'hymne de la collectivité, de la communauté espérantophone. Et c'est grâce au groupe Accordo, qui veut dire accord, que nous allons pouvoir l'écouter. Accordo est un groupe vocal néerlandais de 7 personnes qui chantent a cappella des chants de divers pays. On peut retrouver leur CD sur le site Vinyl Cosmo, dont nous avons déjà parlé ici. Aujourd'hui, nous allons écouter La Espero, chantée par le groupe Accordo. Et dans la prochaine émission, nous allons réentendre ce chant avec la traduction en français. Je rappelle à tous nos auditeurs que la espero, évidemment, veut dire l'espoir ou l'espérance. Écoutons.
En la mondo tenis nova sento, tra la mondo iras porta voco, per flugilo il de facila vento, un de loco flugo gira loco, ne agravo sangon soi fa. La homan tiras familiron alla monte eterna militanta di promessa santa harmonion sub la santa signo dell'espero collectigas falsa e batalantoi cae rapide crescas la afero per laboro saltos la obstinae baroi per la sancta amoris partitae. Surna tra la lingua fundamento, comprenante uno la alian, la popoloi faros en consento, uno grandan rondo familian, via vili collegaro en lavoro pazza nella cigios tis la bella sonjo del comaro por eterna ben effectivigios.
Cet hymne est particulièrement émouvant lorsqu'il est chanté au début et à la fin de chaque congrès universel par 2 ou 3 000 personnes issues d'au moins 120 nationalités différentes. Rappelons que chaque année, des espérantistes du monde entier se réunissent pendant une semaine en congrès. Nous appelons cela la Universala Congresso. L'été dernier, c'était à Rotterdam. L'été prochain, ce sera à Bialystok, la ville aujourd'hui polonaise, où Zamenhof a commencé à diffuser l'espéranto à partir de 1887. Mais c'est maintenant l'heure du cours d'espéranto, avec 2 petits nouveaux. En effet, nous ne manquons pas de volontaires dans l'association, et nous pouvons ainsi gérer les disponibilités des uns et des autres.
Alors, nous allons commencer la leçon numéro 3 de ce Yunul Curso. Alors, pour nous, en fait, c'est la leçon 4. Pourquoi ? Nous avons commencé par la prononciation de l'espéranto que nous avons découpé en trois séquences, en trois séquences, une séquence par émission. Ensuite, même chose pour la première leçon, trois nouvelles séquences, puis pour la deuxième leçon. Donc, nous allons commencer finalement notre 10e séquence du cours d'espéranto. Avec Véronique, qui est déjà intervenue dans l'émission, avec Dorothée, une petite nouvelle, qui habite Saint-Antoine de Boroche. N'est-ce pas, Dorothée ?
N'est-ce pas ?
Saluton, Dorothée.
Saluton.
Et qui en est, en fait, à sa première année. Alors, Dorothée, en fait, a rattrapé même ses petits camarades parce qu'elle suit actuellement les cours de deuxième année et elle a fait la première année en quelques semaines, ce qui est quand même très, très encourageant.
Dis, Claude.
Oui. Si, c'est très encourageant et en plus elle est modeste. Alors, Pierre, tu es aussi de Saint-Antoine d'Auberoche.
Absolument.
Et tu en es à ta deuxième année. Et Pierre prononce très très bien l'espéranto et dès la première leçon, il a tout de suite trouvé le ton, il n'a absolument pas l'accent français. Voilà. Donc, nous allons commencer cette troisième leçon. Alors, Véronique, tu lis et puis Dorothée va traduire.
Chucaruto estas floro au fructo.
Bonne.
Est-ce qu'une carotte est une fleur ou un fruit?
Très bien. Alors, est-ce que, effectivement, chou, c'est introduit une question à laquelle on répond par oui ou par non, en principe. Mm-hmm. On va voir ici qu'il y aura une troisième solution. Et donc, est-ce qu'une carotte est une fleur, floro, ou un fruit, fructo? Et comment, par quel petit mot a été traduit le ou?
Au.
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 Au. Qui s'écrit
A-U.
Chapeau.
Chapeau.
Voilà. Alors, ce chapeau, ça n'est pas un accent circonflexe comme sur les autres lettres de l'espéranto. C'est un petit arc de cercle dont la concavité est tournée vers le haut. Donc, chucaroto estas floro au fructo. Une carotte est-elle une fleur ou un fruit? En voilà une drôle de question. Pierre va nous y répondre.
Caroto estas nec floro. Nec fructo, sed legomo.
Ah, nous sommes rassurés, Véronique.
Une carotte n'est ni une fleur, ni un fruit, mais un légume.
Très bien. Alors, pour dire ni, nec, N-E-K. Et vous avez remarqué une chose, quelle est la différence avec le français? Est-ce que c'est vraiment tout à fait le français mot à mot? Carotto estas nec floro, nec fructo, sed legomo.
Mais les ni-ni ne sont pas placés autour du verbe ou autour de estas. C'est placé autour du fleur, de la fleur.
C'est pas la position.
Non.
Ben, il y a un seul mot au lieu de deux.
Oui. N'est pas, il n'y a que ni, n'est.
En français, on dit une carotte n'est, n'apostrophe. Ni une fleur, ni un fruit. Il y a une double négation, ouais. Ne, ni. Alors qu'en espéranto, une carotte est ni une fleur, ni
un fruit,
mais un légume. D'accord ? Voilà. Donc, il n'y a pas cette double négation que l'on trouve en français. Et pour dire mais ?
Sed.
S-E-D. Très bien. Alors, Dorothée ? Bonvolu legi la sekvantan frazon.
Porco estas nek bela nek fidela sed grasa besto.
Très bonne. Pierre, pour traduire?
Alors, on traduit. Le porc est un animal ni beau ni fidèle, mais gros, je suppose.
Oui. Voilà. Mot à mot, le porc n'est ni beau ni fidèle, mais une bête grasse. Gros, ça serait dica, Grand, ça serait granda. La grassa, c'est, bon, on pense à la graisse en français, donc c'est un animal gras. Véronique, pour la phrase suivante.
La chafo nec dormas, nec manjas, sed staras.
Bonnet. Alors, chafo. Comment traduire ce mot?
Le mouton.
Très bien, le mouton. Le mouton. Est-ce que il y a l'anglais sheep, mais plutôt l'allemand?
Schaf.
Schaf en allemand.
Schaf, au pluriel chef.
D'accord, merci Dorothée. Vous voyez que nous avons besoin de plusieurs langues européennes pour trouver les racines de l'espéranto.
Alors, le mouton ne dort. Ne, voilà, voilà.
On n'est pas obligé de traduire mot à mot, hein. Nec dormas.
Ni ne dort, oui. Ni ne mange.
Oui.
Oui.
Mais.
Se tient debout.
Staras. Oui.
Reste.
Oui, Pierre.
Se tient debout. Oui.
Se tient debout. Très bien. Staras, c'est être debout ou se tenir debout. Donc la chafo, le mouton, nec dormas, ni dort, mot à mot, ni dort, ouais. Nec manjas, ni mange. Sed staras. Bon, ce n'est pas une phrase qui nous apprend grand-chose.
Non.
C'est une phrase d'entraînement. Hein.
Voilà.
Donc, en fait, le mouton ne dort pas, ne mange pas non plus, mais se tient debout. Ce serait peut-être plus naturel en français.
Oui.
Que peut-on dire de la cerise, Pierre?
La cerise estas nec verda, nec blanca, sed rouge.
Très bonne.
La cerise n'est ni verte, ni blanche, mais rouge.
Très bien, Véronique. Alors, Dorothée, qu'y a-t-il dans cette assiette que l'on nous montre?
Ben que la cerise n'est ni blanche, ni verte, mais la, rouge.
La phrase suivante, bonne volée.
Ah bon, d'accord.
Ne gravas.
Uno pomo du cerizoi. Kai tripiroi estas en la telero.
Telero. En la telero, yes, bonne. Alors, on commence à apprendre à compter, là, Pierre.
Oui. Alors, une pomme, deux cerises et trois poires se trouvent dans l'assiette.
Voilà, sont dans l'assiette oui. Ou se trouvent dans l'assiette. Très bien. Donc, pour dire un, deux, trois, Pierre.
Uno, due, tre.
Très bonne.
Et ensuite.
Allez, on va s'arrêter à trois pour aujourd'hui. Uno, due, tri.
On n'est que trois.
Tri gelernantoi. Estas en la chambro. Trois élèves sont dans la pièce. Effectivement.
Uno dica porco staras. Du blancai coquinoi mangias. Cai tri malgrandai musoi curas.
Très bien, c'était une phrase assez longue. Alors, uno dica porco. Staras, Dorothée.
Un gros porc est debout.
Très bien. Du blancai coquinoi mangias. Du.
Du.
De.
De. De blanc. Poule.
Oui.
Une poule. Blanche poule.
Oui, de poule blanche. Mangias.
Mange et.
Kai tri malgrandai musoi curas.
Et trois. Petit souris court.
Très bien. Et trois petites souris courtes. Alors, expliquons peut-être le mot coquinoi. C'est au pluriel.
Oui.
Quio estas coquino, c'est la femelle du coco.
Du coco.
Donc, coco, c'est le coq.
Le coq. Coquino, c'est le petit.
C'est la coquino, c'est la poule. D'accord. C'est la poule. Le coq au féminin, donc c'est la poule. Si on voulait d'ailleurs préciser le coq mâle, on dirait vir coco. Parce que le mot coco tout seul, après tout, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Bon, en français, on a l'habitude de dire un coq, c'est un mâle, une poule, c'est une femelle.
Ouais.
Mais le mot coco en espéranto, son sexe n'apparaît pas dans le mot. Tandis que si on veut parler du coq, c'est vir coco. Vir, viril.
Vir,
et coquino, pour la poule, le suffixe ino, féminisant donc le mot.
Et coco, c'est pas un poulet?
Alors, un poulet, Un poulet, c'est une jeune volaille, en fait. Mm-hmm. Bon. Oui. Donc, ça serait coquido.
Coquido.
Ah, ido. Donc, c'est un suffixe qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on verra bientôt, pour dire le descendant. Donc, un poulet, en parlant d'un jeune gallinacé, c'est un coquido. Voilà. Alors, laissons peut-être le coquido pour aujourd'hui. L'espèce... Coq-poule, si vous voulez, coco. Coco. Le coq, sous-entendu le mâle, vir coco. La femelle, coquino. Et maintenant que vous savez cela, ben, ça sera la même chose pour tous les animaux. C'est l'intérêt de l'espéranto, il n'y a aucune exception à cela. Kai tri malgrandai musoi curas, donc malgrandai, le contraire de grand, petit. Au pluriel, malgrandai musoi curas. Très bonne. Eh bien, nous avons trouvé une chanson portant le même nom que notre émission, Saluton, chantée par Roger Borges, chanteur espérantiste brésilien, connu aussi sous le nom de DJ Roger. Pierre,
la suite?
Yes, bon volu legi.
Carlo diras, mi estas Carlo.
Yes, bonne.
Charles dit, je suis Charles.
Très bonne.
Kio ploras, kio ridas, kio legas.
Très bonne. Et trois questions donc.
On donne les réponses d'abord.
Non, on va traduire. Oui, on va traduire.
Alors, ça, qui pleure, qui rit ou qui.
Oh, on va peut-être le décomposer. Ça sera plus clair pour nos auditeurs. Donc, kio ploras,
kio ploras, qui pleure.
Très bien. Kio pour dire qui.
Oui.
Ce type de mot, nous l'appellerons un corrélatif. Il rentre dans un tableau que nous apprendrons progressivement. Donc, qui ou ploras, qui pleure. Qui ou ridas?
Qui rit.
Très bien. Ridi, le verbe rire. Qui ou legas?
Et qui lit.
Legi, le verbe lire. Très bien. Donc, qui se traduit en espéranto par qui ou, qui s'écrit K-I-U.
La signorino ploras, la knabo ridas, la knabino legas.
Voilà les réponses à nos trois questions. Donc, la signorino ploras, Dorothée.
La femme pleure.
Oui, ou plutôt la dame.
La dame pleure.
Voilà, une femme, on dira virino, Une dame signorino. La dame pleure. La knabo ridas.
Le jeune homme rit.
Oui, ou le garçon.
Le garçon.
Le garçon. Oui. Jeune homme, ça sera Yunulo.
Ah oui.
Negravas, c'est très proche. La knabo, le garçon, oui, rit. La knabino legas.
La jeune fille lit.
Voilà, la fille, la jeune fille lit. D'accord. Knabino, donc le féminin de knabo.
Tu vi legas.
Véronique pour traduire et Pierre va continuer à lire. Donc, tu vi legas.
Yes, mi legas.
Bonne volu traduki.
Ah bon, non, je traduis tu.
Oui, oui.
Est-ce que vous venez?
Est-ce que vous lisez?
Alors, est-ce que vous lisez ou est-ce que tu lis? Puisque l'espéranto ne fait pratiquement pas la différence entre tu et vous. On y reviendra tout à l'heure sur cette éventuelle différence, mais la plupart des espérantistes disent vie au singulier, vie au pluriel. Donc, est-ce que tu lis ou est-ce que vous lisez? Réponse?
Yes, mi legas. Oui, je lis.
Très bonne. Dorothée?
Vi kai mi laboras, ni laboras.
Très bien. Vi kai mi.
Vi kai mi.
Pierre, pour traduire.
Toi et moi, nous travaillons.
Vi kai mi laboras, donc toi et moi
travaillons.
Ou bien, plus simplement.
Ni laboras, nous travaillons.
Ni laboras.
Nous travaillons, Vi estas gelernantoj. Vi lernas.
Alors, en principe, j'aurais dû lire cette phrase, je vais vous la lire. Vi estas gelernantoi.
Oui.
Vous êtes.
Nous sommes les élèves. Vous êtes les élèves.
Vi lernas. Alors, le mot gelernantoi, donc quelque chose de nouveau, décomposons ce mot. Lerni, c'est apprendre.
Oui.
To learn en anglais, lernen en allemand. Lerni, c'est apprendre. Lernanto, c'est celui qui apprend. On pourrait dire l'apprenant, comme on dit parfois dans certains milieux pédagogiques. Donc, lernanto, c'est un élève. Mais il y a des élèves, garçons et filles. Et pour regrouper les garçons et les filles, on ajoute le préfixe ge, G-E. Gelernantoi, les élèves, sous-entendu garçons et filles.
Oui, il faut que tu dises que c'est le J. Marque le pluriel aussi.
Oui, effectivement, gelernantoi, donc le J marque le pluriel. Oui, parce que gelernanto tout seul.
Oui, ça serait. Ça n'irait pas.
Il faudrait quelqu'un d'hermaphrodite peut-être. Voilà. Donc effectivement, sous-entendu, il y a plusieurs élèves, il y en a au moins deux, et les deux sexes sont représentés.
Voilà.
Véronique, pour lire la phrase suivante.
La instruanto parolas, li parolas.
Le professeur ou l'instituteur parle.
Oui. Il parle. Très bien. Alors, instruanto, c'est celui qui instruit. Donc, on peut aussi dire l'enseignant. L'instituteur. Professoro, on garde pour un niveau plutôt de faculté. Donc, instruanto. C'est l'enseignant au sens large d'instituteur, professeur d'un collège ou d'un lycée. Alors, est-ce que je suis instruanto dans ce cours? Non, si c'était mon métier, je serais peut-être instruisto, instruanto. En espéranto, on appelle plutôt l'animateur d'un cours, on l'appelle le gvidanto. Mi estas gvidanto, ça veut dire je guide, gvidi, guider le cours. Gvidanto, c'est l'animateur. Bon, c'est celui qui en sait un petit peu plus que les autres, mais qui est capable de se tromper aussi, et malheureusement trop souvent. Bonne.
La lernantino scribas, ci scribas.
Très bonne.
Alors, l'élève écrit. Il écrit.
Attention,
l'ernantino. L'élève au féminin, donc elle écrit.
Très bien. She pour elle. Li pour lui, pour il. She pour elle. Et maintenant, voyons pour un animal.
La mouse courras. Ji courras.
Oui. Alors attention, le S se prononce ce, la mousso.
La mousso.
Yes, bonne.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Mousso, j'ai cru entendre un Z, ne gravas. Alors le son Z existe en espéranto.
Oui.
Avec la lettre Z que l'on appelle zo. La mousso courras, ji courras. On voit sur ces trois exemples que l'on retrouve en espéranto, pour ceux qui ont fait de l'anglais, he, il, she, elle, et it pour un animal, le neutre, on va dire. Eh bien, en espéranto, il y a également li pour il, she pour elle. Alors attention, en espéranto, she, ça s'écrit S accent circonflexe I, S chapeau I si vous préférez. Et pour le neutre, on dit ji, ça s'écrit G chapeau I.
Voilà, laissons là nos amis et retrouvons-les lors de la prochaine émission. Je vous rappelle les coordonnées de notre association. Par téléphone 05 53 54 49 71. Par courrier postal 17 lotissement de l'aérodrome 24 330 Bassillac. Et par internet esperantoperigord@yahoo.fr. À bientôt. Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.